Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Oh zut, c'est une rediffusion.
Bah salut,
tu coupes la piste.
Ces gens qui comptent
la piste, Maude. Bon, bah salut, c'est Calibre.
De retour des vacances.
De retour des vacances.
Ce n'est plus une rediffusion, c'est un fantastique direct.
Voilà, vous avez entendu quelques petits, nos petites voix, mais c'était une autre ancienne émission. Parce que pendant notre absence, vous avez peut-être eu la chance et le bonheur d'écouter le meilleur de Calibre pendant tout le mois d'août.
Et rediffusion collector, hein, puisque celles-là, elles ne seront pas disponibles sur le site. Alors si vous les avez loupées, eh ben...
Tant pis pour vous.
Bon, en vrai, il y a déjà tout à écouter sur le site de l'émission. Hein, tous ces enregistrements-là, on a pris le meilleur. On a agrémenté de petits moments un peu délirants de l'équipe de Calibre, pris sur le vif lors d'une une longue réunion de 4 heures, de bilan, de fin de saison. Enfin bon, bref. Mais tant pis si vous avez loupé, hein, c'est pas grave.
Bon ben en tout cas là nous sommes le 16 septembre, c'est la première émission de la rentrée on pourrait dire
de la deuxième saison de Calibre.
Ce soir à l'antenne à la technique on a Laura et Maud qui sont de nouveau là, enfin que t'es pas vraiment partie hein. Et puis au micro il y a Lunard et Mélanie. Peut-être on se refait un petit point sur pourquoi on fait cette émission rapidement, pour remettre un peu dans les esprits notre spécificité.
Oui, ou puis si des personnes débarquent fraîchement à Grenoble et nous écoutent pour la première fois, hein, ça peut valoir le coup.
Et on l'espère, d'avoir beaucoup de nouveaux et nouvelles auditrices, ouais. Ça nous ferait vraiment plaisir.
Calibre, pour corps, amour et sexualité. Une émission de libre antenne. En tout cas, dans le principe, quoi. L'idée, c'est que vous nous appeliez pour venir discuter avec nous de ces sujets-là. Vous pouvez aussi nous envoyer des mails. Nous, c'est des questions qui nous parlent. Alors, on lit des trucs, on recherche un peu. Alors, des fois, on amène aussi un peu dans l'équipe d'animation des choses.
Mais bon, pour autant, on n'est pas des experts. Ça aussi, faut le rappeler. On n'est pas des spécialistes de la question. C'est juste que, on prend du temps pour bouquiner, pour réfléchir, pour discuter et tout ça. Donc, en fait, on est comme vous. On n'a pas de réponse à vous apporter. En fait, on préfère nous discuter avec vous puis essayer ensemble de réfléchir. Si vous posez des questions, essayez d'y réfléchir ensemble et d'apporter des réponses.
Et puis tout ça, on essaye de le faire sans tabou. Alors, dans l'idée qu'on puisse discuter ensemble de n'importe quoi autour de ces questions-là et sans jugement, parce que en tout cas, autant que possible, on essaye de se dire que, comment formuler ça? C'est toujours une question difficile de formuler cet état d'esprit, que les gens, ils prennent leurs pieds où est-ce qu'ils veulent, où est-ce que ça leur fait du bien, un truc comme ça.
Et puis, ils ont les relations qu'ils choisissent aussi, et que nous, on n'est pas là pour juger. Alors, peut-être des fois, puis on a eu un peu des retours comme ça, les gens ils nous disent, ouais, votre sans jugement, des fois on n'y croit pas trop parce que vous avez des intonations, des petites formules toutes faites qui montrent bien que des fois vous en pensez quelque chose. Et de fait, on en pense quelque chose. On peut pas être complètement sans jugement, mais en tout cas, on a envie d'accueillir vos paroles, vos avis. Tout autant que vous êtes, quoi.
Et puis en tout cas, même au sein de l'équipe de Calibre, hein, parce que l'équipe de Calibre, c'est une dizaine de personnes, et on tourne aussi derrière la table de mixage, derrière les micros, on a des opinions qui divergent parfois, et on se confronte aussi, on n'est pas d'accord, ou alors on n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes envies, et tout ça, ça fait aussi qu'on échange, et en tout cas, entre nous au sein de l'équipe et autant que possible avec vous qui nous écoutez, sur tous ces sujets-là, quoi.
Voilà. Bon, et en tout cas, du coup, ça se passe tous les jeudis soirs, de 20h à 21h. Donc, on vous rappelle le numéro de téléphone, c'est le 04 76 09 09 09. Et si ça s'en occupait, bah, faut rappeler, puisqu'en fait, on a une seule ligne de téléphone. Donc, voilà, ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un en ligne, donc n'hésitez pas à rappeler.
Et puis, donc les émissions de Calibre, elles passent en direct sur Radio Kaléidoscope 97 FM à Grenoble. Elles sont aussi en direct sur Internet à travers un stream, comme on dit, et aussi elles sont en podcast. Alors, en vrai, podcast, c'est un peu pompeux. On pourrait juste dire qu'elles sont enregistrées et qu'on a des fichiers qu'on peut écouter sur son ordinateur et un peu quand on veut.
Et télécharger et puis emmener sur son lecteur bip-bip-bip. Pour en même temps faire du vélo, quoi. Enfin, on n'est pas toujours obligé d'être collé à son ordinateur non plus, oui. Pour écouter Calibre, pour regarder les oiseaux voler et tout ça.
Voilà, et si jamais vous nous écoutez en différé, justement, et que vous ne pouvez pas nous appeler, bah oui, puisque c'est en différé, vous ne pouvez pas nous appeler en direct, c'est toujours possible de nous écrire des mails. Et on a une petite boîte, et donc c'est Calibre, calibres@poivron.org, où vous pouvez nous envoyer des messages, comme le font régulièrement les auditeurs et les auditrices. Et c'est toujours un grand, grand plaisir que de recevoir vos écrits.
Bon, sinon, on voulait vous raconter aussi cet été, pendant notre absence, on vous a proposé un petit sondage pour savoir c'était quoi votre pratique d'écoute de l'émission, qu'est-ce que vous en pensiez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il change, etc., etc. Et du coup, il y a 72 personnes, il me semble, jusqu'à aujourd'hui, qui nous ont répondu à ce sondage. Et du coup, je sais pas, qu'est-ce que tu auras envie d'en dire de ce sondage?
Alors, en tout cas, merci d'abord à ces personnes qui ont pris ces 2 minutes pour répondre à ces petites questions. Quand même, il y a des personnes qu'on fait très fort, c'est-à-dire que 1 heure après qu'ils soient en ligne, hop, on avait déjà 2 réponses. Alors, on a quand même des auditeurs et des auditrices très fidèles. Et jusqu'à hier, je crois, on a encore reçu une nouvelle petite réponse. Alors, le sondage, on va le clore ce soir ou demain, quelque chose comme ça, parce que c'était un sondage de l'été. Mais en tout cas, c'était ça déjà. En tout cas, merci aux personnes qui ont répondu.
Et notamment pour tous les encouragements, les compliments que vous nous avez faits. Ouais, on n'a pas eu vraiment de grosses critiques vraiment fondamentales qui nous diraient que vraiment ce qu'on fait c'est de la merde ou je sais pas quoi. Donc ça donne vraiment confiance et ça fait vraiment plaisir et ça nous donne plein d'énergie pour continuer cette année. Voilà quoi.
Bon, mais le bilan c'est quand même que vous êtes pas si nombreux à nous écouter en direct quand même. Et ce qui donc fait que vous n'êtes pas si nombreuses à pouvoir nous appeler. Plusieurs personnes nous ont aussi témoigné qu'elles n'en avaient pas spécialement l'envie, qu'elles étaient quand même, elles se sentaient un peu timides, qu'elles avaient peur d'être reconnues.
Qu'elles considéraient que leurs problèmes étaient des tout petits problèmes qui valaient pas la peine d'en parler à Calibre, alors que nous, on pense que... que tous les petits problèmes rikiki, on pourra en parler à Calibre.
En tout cas, plein de gens aussi, plutôt que nous appeler, préfèrent en parler à leurs amis. Et je trouve ça chouette aussi, en fait, que si jamais vous avez dans votre entourage des personnes avec qui vous êtes suffisamment en confiance pour aborder toutes les questions qui traversent cette émission, c'est super, continuez. Vous pouvez aussi nous appeler en groupe, quoi.
pour nous donner le bilan de vos discussions. Puis aussi, on a eu pas mal de commentaires constructifs, des conseils, des idées. Et on en a retenu un, parce qu'on l'avait déjà eu, puis parce qu'il est revenu plusieurs fois, à savoir faire des émissions thématiques. Et donc, on va tenter le coup. La première émission thématique aura lieu en octobre. Je peux déjà vous donner la date, ce sera le 21 octobre. Mais pour le moment, le sujet, le thème de cette émission reste secret. Non, je rigole. En fait, on n'a pas encore eu le temps de le décider. Mais voilà, on vous le dira très prochainement pour que vous puissiez préparer toutes vos questions et tout ça. Et du coup, pendant une émission, on parlera d'un thème précis. Mais pour autant, on pourra... parler d'autres choses s'il y a des gens qui veulent nous appeler ce soir-là pour parler d'autres choses aussi.
Et puis, quand même, la plupart des gens qui ont répondu à ce sondage ont connu l'émission par bouche à oreille. Alors continuez. Continuez à parler de Calibre à vos amis. C'est super.
Et de nez à pied, si vous voulez, aussi. C'est, ça peut fonctionner aussi. Bon, on va peut-être s'écouter une petite musique pour m'éviter de faire d'autres blagues vaseuses. Donc, pour commencer, nous allons écouter Phoebe Kilder, une chanson qui s'appelle Paranoia.
Well, he's running around, but he doesn't know why. He came too quick last Saturday night. He's got a word to say to you, and he's got to tell you quick, cause it's long been due. You gotta take it easy, going all around, going shouting out. You gotta take it easy, going around shouting that he doesn't know how.
Pour ce retour de Calibre à l'antenne en direct sur les ondes de Radio Kaléidoscope et les octets du grand internet. Cet été, non, même moins que ça, il y a quelques jours, on a reçu un email d'une auditrice, alors qui nous a fait trois pages de commentaires, de réflexions, de choses à nous dire. C'était vraiment précieux de lire tout ça et on merci en tout cas pour ces contributions. Puis il faut qu'on en discute de trucs entre nous. En tout cas, ça va sûrement alimenter des choses. Et on avait envie avec Mélanie de revenir sur un point, en tout cas, et même un deuxième après. Et le premier concernait les mots, l'usage des mots. Tu lis ?
Ouais, je vais lire ce passage de son mail sur le mot câlin. Pour moi, un câlin est une action non sexuée. Un enfant demande un câlin, par exemple. Quand un ou une amie ou mon amoureux a un coup de blues et que je lui propose un câlin, C'est pas un temps sexuel que je lui propose. C'est une embrassade, c'est-à-dire le fait de mettre ses bras autour de l'autre en y collant la tête dans le cou ou ailleurs. On peut entourer de ses bras la jambe de l'autre ou n'importe quelle autre partie du corps. Un câlin peut être seulement un rapprochement de joue à joue ou autre, sans accolade, sans ambiance sexuelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'aime pas entendre ce mot employé comme euphémisme, lié à la culpabilité, de la gêne, de la pudeur. Pour faire l'amour ou faire du sexe, ou avoir des relations sexuelles, ou baiser, ou niquer. Vraiment, ça m'agace. Je n'ai pas de demande quant à cette réflexion. Je ne suis pas en train de vous demander d'arrêter illico d'employer câlin quand vous signifiez échanger un temps sexuel. Non, non, non. C'est juste mon ressenti, mon goût. À moi aussi de réfléchir à pourquoi ça m'énerve à ce point-là. Qu'est-ce que j'ai à connaître de moi-même en explorant ce petit détail ? Parlez comme vous voulez. Par contre, je veux bien que lors d'une émission, il y ait un temps à propos des mots de vocabulaire autour du sexe et des relations physiques en général, par exemple.
Eh ben, maintenant, pourquoi pas ?
Vamos.
En tout cas, si ça vous fait réagir et que vous avez aussi, je sais pas, des mots du vocabulaire, vous pouvez nous appeler, hein, 04 76 09 09 09. C'est une question compliquée, les mots.
Bah, en fait, c'est drôle parce que Lunar et moi, on en discutait tout à l'heure et en fait, on se disait que nous, on utilisait le mot faire des câlins pour avoir des relations sexuelles. Donc, c'est fort probable qu'à l'antenne, on fasse partie des animateurs et animatrices qui utilisent ce mot-là et que c'est pour ça que, enfin, on est les personnes qui agaçons cette auditrice. Et du coup, on a fait notre petit sondage au studio pour savoir si cet usage était partagé communément. C'était une spécificité de l'équipe Calibre. Bah, pas vraiment. Hein. Je crois qu'on a eu d'autres sons de cloche. Et du coup, c'est vrai qu'on utilise... je pense qu'on met des choses derrière ces mots-là assez différentes suivant les personnes qu'on est, suivant les personnes avec qui on pratique ces actes.
En tout cas, moi, dans ma tête, par exemple, quand je dis câlin, c'est pas forcément un... Enfin, je dirais pas que c'est un euphémisme, je dirais pas que ça adoucit ou que ça diminue le sens de quelque chose, quoi.
Moi, je suis assez d'accord, par contre. Ça m'embête pas, en fait, d'assumer ce côté... c'est pas forcément de la pudeur pour autant, ou de la gêne, ou de la culpabilité, mais je trouve qu'effectivement, ça enlève la dimension crue, en fait, que peut avoir baiser ou niquer, quoi. Dans la façon dont j'ai d'utiliser... et peut-être que, finalement, j'ai une gêne à assumer la dimension crue des rapports sexuels, hein, peut-être. Hein.
En tout cas... Par exemple, il y a cet aspect... en tout cas, faire l'amour, on a fait le tour rapidement. On est plein à, en tout cas, pas l'employer du tout, pas penser les choses comme ça. Dans notre micro-sondage, hein, on était 5 à se poser la question. Peut-être ça nous traverse la tête, mais en tout cas, d'en discuter comme ça avec des gens... je sais pas. Moi, par exemple, ce mot-là, il m'évoque vraiment l'image Hollywood. Le film, quoi, c'est...
Faire l'amour, tu veux dire.
Ouais, faire l'amour, ouais, c'est vraiment... C'est la comme... comment dire. Comme si on pouvait pas avoir de sexualité hors de l'amour, comme si l'amour, ça impliquait automatiquement la sexualité. Et puis, en plus, ça m'évoque vraiment des images de... Je sais pas, de la pénétration... Enfin, du rapport sexuel comme un acte de pénétration. Et puis... ça a joui, on arrête, quoi. Ce que je trouve... en tout cas, ça m'évoque vraiment cette image-là.
C'est vrai que alors que dans faire des câlins, il y a un côté un peu pluriel, quoi. Alors, on a l'impression qu'il se passe... on a l'impression qu'il se passe plein de choses dans ce moment-là, quoi. Du coup, c'est assez chouette, quoi.
Et en tout cas... le téléphone a sonné, c'est la rentrée.
Le
studio.
Le problème, c'est le mien qui a sonné, désolé.
En tout cas, il y a cet aspect pluriel. Et après, moi, je comprends que pour des personnes, ce soit aussi gênant, parce que c'est effectivement un mot qu'on peut employer dans un contexte de relations parents-enfants, quoi.
Parents-enfants ou amis. Enfin, je veux dire, comme l'auditrice, elle le décrit très bien, en fait. Elle donne toutes les possibilités, avec les bras, sans les bras. Moi, ça m'a posé la question aussi, est-ce, parce qu'elle fait une liste un peu des mots qu'on emploie pour ça, faire l'amour, faire du sexe, avoir des relations sexuelles, baiser, niquer. Je me suis dit, est-ce que moi j'en ai d'autres? Et j'ai le souvenir d'avoir entendu d'autres mots qui étaient employés, mais en fait, moi, je les ai pas. Ouais. Enfin, je m'en souviens pas, j'en ai pas d'autres que j'utilise. Et je trouve que c'est dommage, en fait, parce que c'est drôle d'avoir plein de mots pour décrire ça. T'en as d'autres, toi, Lunard?
Je me rappelle, en tout cas, qu'on avait passé une chanson de Colette Renard.
Oui.
Qui s'appelle Les Nuits d'une Demoiselle.
Ouais, mais là, c'est plus sur le cunnilingus que sur le fait de faire du sexe.
Mais en tout cas, elle avait une richesse de vocabulaire.
Ah ouais, ça, c'était classe.
Pour, voilà, en tout cas.
Bon, on se la réécoutera une autre fois.
Oui. Mais non, moi, je crois que j'ai pas tant de mots aussi parce que, par exemple, en tout cas, j'ai envie de ce truc d'une liberté dans quelles caresses on fait et quel plaisir on se donne et comment on se les donne. Et par exemple, dans Câlin, on peut mettre vraiment plein de trucs. Et effectivement, parce que ce qu'elle décrit, cette auditrice dans son mail et de prendre une personne dans ses bras, ça, pour moi, enfin, à des moments, ça peut être une source d'un plaisir vraiment très fort. Et je peux le vivre comme un plaisir, de l'ordre sexuel, même si ça met pas directement en jeu des sexes, des parties génitales, quoi. Mm. Et après, bon, des fois, c'est arrivé dans des contextes de avec des partenaires de dire baiser, ouais. Allez, viens, on baise. Et que ça soit joyeux et souriant, hein. C'était, mais il y avait un truc comme ça de, je crois, selon aussi à quel moment et dans quelle ambiance on se sentait. Ça pouvait être de dire allez viens on baise, ça appelait un truc de je sais pas d'un en tout cas pour le coup d'un moment où on allait beaucoup jouer avec nos sexes et nos parties génitales quoi.
Moi j'ai l'impression que les mots que je vais employer pour ça va plus dépendre des partenaires que des situations en fait. C'est après c'est un espèce de code que du coup avec un partenaire à un moment donné il y a ce code qui s'établit et qui du coup perdure dans le temps, enfin le temps de la relation si c'est une relation suivie quoi, et que enfin et du coup oui enfin ouais je sais pas comment finir ma phrase alors.
Bon et faire du sexe. Enfin, moi, je crois que ça m'est arrivé de dire ça avec des amis, mais
ouais, moi je trouve que tu le dis assez régulièrement faire du sexe.
Ah ouais.
Ouais, c'est ouais. Une phrase que je te reconnais dedans, mais peut-être t'en as pas vraiment conscience.
Ah, c'est possible. Après, ouais. C'était bien, on a fait du sexe. Ouais, si. Mais c'est pareil, ça dépend aussi à qui on parle, quoi. Je crois que je vais pas à une personne que je vais inviter à
faire du sexe.
À faire des câlins, justement, j'allais dire ça. C'est étonnant, quoi. Et ben, je vais l'inviter à ce qu'on se fasse des câlins, ou à ce qu'on, et je vais pas lui dire, et si on faisait du sexe? Ouais. Mais par contre, quand je raconte, si jamais je raconte des trucs de cet ordre-là, de ma vie sentimentale ou sexuelle à des amis, ben, je pourrais dire, on a passé une soirée à faire du sexe.
C'est drôle quand même que dans les mots qu'on a dit, là, il y a souvent le verbe faire qui revient. Ouais. C'est, alors que, enfin, ou sinon, là, il y a avoir des relations sexuelles, mais ça me questionne un peu. Enfin, je me dis, on fait, je sais pas.
Bon.
On fait rien, enfin je veux dire, on, je sais pas.
Après, il y a aussi toute cette question qui est compliquée. C'est pour moi dans ces mots et dans ces vocabulaires, il y a ces trucs de rôle. Parce que on baise, par exemple, qui est un truc que des gens peuvent dire, c'est pas du tout la même chose que j'ai envie de te baiser. Parce que dedans j'ai envie de te baiser, enfin pour moi il y a un truc d'un rapport actif ou passif dans cette action là et en même temps j'aime pas non plus le on baise parce que je trouve le on il est extérieur à un certain nous, enfin bon bref après
ouais,
je vais faire ma philosophie France Culture mais
il faudrait dire nous baisons. Baisons-nous. Mais alors là l'autre qui comprend plus rien en face, quoi, tu veux que je te fasse un bisou?
Oui, c'est ça. Mais en tout cas ça c'est un aspect que je trouve que je trouve aussi des fois problématique dans les mots qu'on peut employer, c'est comment on tourne les verbes ou comment on tourne les choses là-dessus.
Ouais. Ouais, c'est drôle. Moi, j'essaye de me rappeler un peu aussi les espèces de formes presque non verbales qui peuvent exister aussi dans un rapport de complicité quand tu fais hum ou des trucs comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou en fait, c'est encore plus du code en fait, parce que c'est un code que tu partages vraiment plus qu'avec ton partenaire, quoi. Bon, oui, d'accord, je me suis dévoilée. Forcément, hein, faut que ça parte du vécu des fois.
Bon, après, il y a des trucs, par exemple, que d'autres emplois encore autour là, et c'est on a couché ensemble, par exemple.
Ah oui, oui, oui. Couché, ouais.
Allez, viens, on couche ensemble. Et par exemple, ça, c'est moi, c'est des.
Je couche pas la première ouais. fois.
Et alors moi, ça, c'est des mots que j'ai complètement sortis de mon vocabulaire. Parce qu'en fait, j'ai envie de pouvoir dormir avec dans le même lit qu'une personne, et que c'est pas pour autant qu'on va partager de la tendresse, c'est pas pour autant qu'on va partager de la tendresse, c'est pas pour autant que... Enfin, ça peut être juste un moment à dormir à côté d'une personne ou dans le même lit.
Et que pour toi, dans le mot coucher, il y a encore ce truc d'être allongé dans un lit
Bah, c'est que ça introduit une ambiguïté, en fait, je crois, comment dire. Hop. Admettons un contexte, une colocation. Un garçon et une fille sortent de la même chambre un matin. Et ben, beaucoup de gens peuvent penser ils ont passé la nuit à faire des câlins, faire du sexe, faire l'amour ou baiser, selon ce qu'on préfère. Mais en tout cas, alors que, en fait, je crois que c'est nul de se dire qu'on aussi on peut pas partager des temps à juste vouloir dormir ensemble. Et sans forcément avoir envie que ce soit accompagné de choses, en fait, d'un temps sexuel.
Oui, mais parce que pour toi, comme je le répète, dans coucher, il y a encore cette dimension de... Enfin, parce que moi, quand je dis coucher, pour moi, c'est forcément baiser, en fait. Il y a plus ce truc de dormir ou de pas dormir. Oui. Et à l'inverse, on parlait de câlin. Moi, dans câlin, je trouve que du coup, il y a cette ambiguïté que l'auditrice, elle relève. Et en même temps, moi, je l'aime bien, cette ambiguïté, parce qu'en fait, elle me permet de pouvoir faire des câlins avec quelqu'un. Qui soit où la dimension sexuelle, elle soit pas forcément évidente dans le sens où on verra bien en fait ce qui se passera aussi. On va commencer par se faire des câlins, puis en fait ces câlins ils vont devenir d'autres types de câlins ou les câlins puissance 2, enfin je sais pas. Ça reste des câlins, mais je trouve que du coup, tu vois, sur l'ambiguïté, des fois c'est chouette aussi qu'elle existe là dans les mots, quoi.
Bah disons que dans le câlin, on peut s'arrêter quand on est heureux, heureuse, quoi. Enfin, content, quand on a envie de s'arrêter. Quand on est parti pour faire l'amour, c'est plus compliqué. Ou quand on est parti pour faire du sexe, c'est plus compliqué de s'arrêter un moment, je trouve. En tout
Parce
cas,
que, oui, il y a ce truc de... On est parti pour faire du sexe.
Oui. Alors, il faut arriver à ce qu'on souche le kiki. Comme dirait Emma.
Notre chère Emma. Ouais. Oui, oui, Emma dit ça, oui. Se toucher le kiki. Ben oui, on pourrait rajouter ça à la liste. Voilà. Bon, ben, on va peut-être... vous pouvez nous appeler hein, si vous avez envie de nous parler de quels mots vous employez, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça vous fait Voilà, est-ce que ça vous questionne ces trucs-là? Mais en attendant, nous, on va s'écouter une petite musique.
Allez, à mon tour. Alors, ça sera Madeleine Perrot. Et c'est plutôt du jazz. Et c'est Dance Me to the End of Love.
Me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon.
what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
C'était Madeleine Peru, Dance to the End of Love. Et peut-être juste avant, on va continuer avec le mail de cette auditrice. On va lire un autre passage sur la question de masturbation. Mais avec Lunard, pendant la petite chanson, on se disait qu'on n'avait pas trop parlé des mots, enfin de la façon à l'étranger, enfin dans des langues étrangères, qu'on a de quels mots on utilise pour faire du sexe et tout ça. Et du coup, je trouvais que c'était drôle. Moi, j'en avais un dans la tête depuis tout à l'heure, mais je n'osais pas le dire. C'était en allemand, je le trouve trop drôle. C'est pour dire baiser, on dit Bumsen. Et je sais pas, je trouve que c'est joli, quoi. C'est rond, c'est chaleureux, quoi.
En anglais, j'étais triste dans l'anglais, mais parce que bon, j'ai ce défaut de regarder beaucoup de séries américaines, mais comme plein de gens peut-être. Et en tout cas, tout beaucoup de séries avec des teenagers des US, on les entend dire "We've done it" ou "Let's do it" et voilà. Et donc c'est faisons-le, on l'a fait. Et bon, alors des fois on entend ça aussi en français, mais quand même un petit peu moins souvent, j'ai l'impression. Mais je trouve ça hyper moi en tout cas je trouve on a besoin de nommer quand même les machins, même si c'est pourri et qu'on s'est passé, on a passé plein de temps à se dire ah quel mot il faut employer, dans quel contexte et avec qui, quand même quoi, nommons nommons le truc de se faire du plaisir, de se donner du plaisir mutuellement, de se faire des câlins ou de se faire du sexe, mais en tout cas nommons le quoi. Quelque part, je trouve ça plus chouette. Que...
Ouais, je suis bien d'accord avec toi aussi.
Bon.
Du coup, Lunard, tu lirais la suite du mail ?
Ah là là, bah oui. La suite du mail. Donc, c'était sur le rapport à la masturbation. Et cette auditrice nous écrit « Je suis hétéro et en couple, relation exclusive. J'aime. Je me masturbe depuis toujours, je crois. Mais parfois, je m'en empêche parce que je sens que ce n'est pas un... vrai, entre guillemets, désir. mais un compensatoire à une frustration de ma vie. Une compulsion, quoi. Comme le chocolat, la télé. Et en plus, si je me masturbe trop, j'ai beaucoup plus de mal à atteindre l'orgasme avec mon partenaire après. Parce que c'est plus facile pour moi de me donner un orgasme seul, ça me demande plus d'effort d'atteindre l'orgasme avec une autre personne. Il faut que je « sorte de moi », entre guillemets, encore une fois. Et c'est pas accessible tout de suite, mais j'aime faire cet effort. Est-ce que parfois vous sentez ça, vous aussi, comme une différence entre les moments de masturbation-plaisir et les moments de masturbation-frustration-compulsion ? Comment réagissez-vous ? Quel choix faites-vous à ces moments-là ? Voilà.
Bah alors moi, je crois que j'ai déjà j'ai envie de dire sur cette différence que tu fais... Enfin, que l'auditrice, elle fait, j'aurais qu'à dire tu, puisqu'on pourrait discuter avec elle, hein, elle pourrait être au téléphone. La distinction qu'elle fait entre la masturbation plaisir et la masturbation frustration ou compensatoire à une frustration, moi, je pense qu'on peut aussi le vivre dans le rapport sexuel. Enfin, cette différence, c'est pas juste...
Lié à la masturbation.
Lié à la masturbation, où moi j'ai envie aussi de rajouter une autre façon de vivre le truc, comme juste une réponse à un besoin physique. Des fois, c'est ça aussi, quoi. Après, je suis pas sûre de vouloir faire une hiérarchie de ces différentes façons de vivre ces moments-là, quoi. Enfin, je trouve que ça répond à différents moments, à différents besoins ou envies, quoi.
Mais alors, attends, c'est histoire de bien comprendre. Ce truc que, des fois, on... Bon, ok, on vient d'avoir cette longue discussion, alors maintenant, on baise. Aussi, en réponse à un truc de frustration, enfin, ou de façon un peu compulsive.
Ouais.
Ouais. Plutôt que pour répondre à un
vrai désir. Oui. Désir.
Mais c'est quoi un vrai désir, en
fait ? Oui, aussi, oui, on peut se poser la question, ouais, c'est... C'est quoi un vrai désir ? Moi, je sais pas répondre à ça.
Bah,
ouais. Ouais, non, vas-y.
Je t'en prie. Bon, en tout cas, je sais pas. Moi, je sais que dans mon rapport, alors de garçon à la masturbation, il y a des temps où en tout cas, je vois que j'ai envie de prendre du temps avec mon corps, et d'autres où j'ai juste envie de jouir vite. En tout cas, ça, je vois comme une vraie différence, mais c'est un truc d'envie, mais aussi de disponibilité, de combien de temps j'ai devant moi, de quelle intimité je dispose. Mais bon, parce que je veux dire des temps d'autosexualité, mais c'est ça en fait. Là, à un moment donné, j'ai l'impression que ça bascule dans mon vocabulaire. On est toujours sur les mots entre un truc de masturbation et un temps d'autosexualité.
Où tu rapprocherais la masturbation d'un truc plus compulsif et de réflexe ou je sais pas quoi, et que de l'autosexualité, ce serait plus un temps que tu t'accordes pour ton plaisir.
En tout cas, ça n'a pas le même objectif dans ma tête, je crois, entre arriver et vouloir jouir à un moment donné vite et en tout cas, et me donner du plaisir de façon plus générale où ça peut être plus long, mais où... Ouais.
Mais en tout cas, est-ce que toi, tu mets ces deux... Enfin, si tu les différencies, ces deux pratiques-là, en fait, est-ce qu'il y en a certaines que tu déprécies et d'autres que tu trouves qu'elles sont à valoriser ? Parce que moi, c'est ce que je ressens un peu dans ce que l'auditrice, elle écrit. Et en fait, moi, j'ai envie de la déculpabiliser. En fait, on a aussi le droit de se masturber comme on bouffe du chocolat quand enfin vraiment enfin je trouve que c'est cool quoi même de enfin ouais enfin des fois ça c'est ouais
oui bon après il y a oui
et toi quand t'es enfin c'est pas pour raconter la vie de Lunard mais c'est pour je sais pas moi enfin et puis même je crois que moi, ça me fait plaisir aussi de voir que ça peut répondre à un besoin physique, la masturbation, la sexualité en général, en fait, que c'est un truc qui est vraiment dans mon corps, qui est doux. Enfin, alors peut-être que c'est parce que l'auditrice elle dit, puisque moi je parle de besoin physique et tout ça, et elle c'est plus une question de réponse à une frustration. Donc là, c'est pas tant de l'ordre physique que de l'ordre psychologique.
Ouais, est-ce qu'il y a vraiment une différence à des moments, je sens que c'est assez flou.
Bon, en tout cas, l'auditrice, elle pose la question, comment on réagit, quel choix on fait. Enfin, moi, je fais pas le choix de pas le faire parce que je me dis, non, bah, tu vas pas répondre à une frustration par cette manière-là, quoi. En tout cas.
Après, elle pose quand même une vraie question. Ok. Alors, j'ai ces moments-là où j'ai envie de masturber. Et quand je le fais, après, j'ai plus de mal à atteindre l'orgasme avec mon partenaire. Et ça, c'est vrai que c'est. Est-ce qu'il faut se retenir de se masturber avant de faire des câlins à deux?
Moi, je trouve ça m'étonne en fait, parce que moi, j'ai l'impression que moi, c'était un peu l'inverse. Je dirais que il y a des gens qui sont d'accord en technique, enfin des filles en l'occurrence, mais que en fait, mon corps, quand je l'habitue à une certaine excitation, etc. En fait, il est plutôt dans un mode haut en excitation, et du coup, ça me rend pas forcément plus difficile l'orgasme avec un partenaire, quoi.
Bah ouais.
Mais peut-être que moi, c'est ce que je ressens de ce truc de culpabilité. Peut-être que c'est un peu ça aussi, ce truc de... Enfin, oui, j'arrive pas à comprendre, en fait, pourquoi cette difficulté, elle arrive à ce moment-là, en fait. Peut-être t'as des idées, toi,
Non, j'ai pas spécialement d'idées. Après, il y a un truc, en tout cas, que je me souviens, c'était un truc autour de la mais peut-être qui est encore là dans ma tête, je sais pas trop. En tout cas, dans un truc de culpabilité, de ah ok, en fait ce qu'on nous dit quand on est jeune là et quand on grandit, c'est que du coup la masturbation, c'est un truc qu'on fait quand on fait pas quand on est en couple, quoi. Que quand on a un ou une partenaire avec qui satisfaire ses besoins sexuels, pourrait dire que c'est ça l'idée, on n'est pas censé se masturber parce que la personne avec qui on est en couple, elle est censée répondre à nos besoins.
Et du coup, il y aurait peut-être un espèce de mécanisme où, comme tu t'es donné du plaisir toute seule ou tout seul, dans la situation d'être à deux, tu t'empêcherais, enfin, tu te mettrais des bâtons dans les roues.
Bah, qu'il y a un truc un peu de culpabilité, ou en tout cas d'avoir l'impression que c'était pas légitime de s'être masturbé alors qu'on est en couple et qu'on a un ou une partenaire et qu'on peut avoir du désir pour cette personne.
Bon, après, moi je suis quand même d'accord avec elle dans le sens où, en fait, pour moi c'est plus compliqué, plus difficile. C'est drôle que je dise compliqué plutôt que difficile en premier, d'atteindre l'orgasme à deux que toute seule. Parce que, effectivement, en fait, toute seule, c'est mon trip à moi, je me pose pas de questions, alors qu'à deux, en fait, il y a d'autres enjeux, et bon, j'arrive à les dépasser, heureusement, mais heureusement pour moi, à ce moment-là de ma vie, mais... c'est vrai que ce truc de sorte, enfin, moi je dirais pas forcément qu'il faut que je sorte de moi-même, mais plutôt que il faut ce truc de relâchement, de lâcher prise, en fait, que en fait avec moi je me pose pas la question du lâcher prise, je suis moi-même et voilà, quoi. Alors qu'avec quelqu'un d'autre, le lâcher prise, je trouve qu'il est plus difficile. Mais c'est pas tant lié au nombre de fois où je me suis masturbée avant, en fait.
Ouais. En tout cas, moi, je peux envisager, quoi, que ce truc de culpabilité, à un moment donné, il dure un peu. En tout cas, il imprègne suffisamment jusqu'à un peu empêcher les trucs pendant un prochain câlin. Mais la question, c'est pour moi, c'est aussi comment est-ce qu'on éventuellement comment est-ce qu'on arrive à dépasser ces trucs de culpabilité. Je veux dire, j'ai l'impression que il y a plein de moments, même si on est en couple et dans une relation exclusive, où on peut avoir envie de se masturber, et je veux dire, indépendamment en fait de cette relation avec une autre personne, ou même justement dans le prolongement de cette relation avec une autre personne, j'ai croisé des personnes dans ma vie qui avaient ce truc là, qui me racontaient que en fait pas très longtemps après avoir fait du sexe, pardon, je soupire, mais c'est parce que vu qu'on a une discussion sur les mots juste avant, ces personnes, avaient, après avoir fait du sexe, assez rapidement, elles avaient envie de se masturber pour un peu revivre un moment de plaisir dans, je sais pas, dans un truc de débriefing avec elles-mêmes,
de sens sexuel,
un truc comme ça en tout cas. Alors voilà, c'est, je sais pas, c'est un exemple ou même est-ce que comment est-ce qu'aussi on introduit des trucs de masturbation dans des moments sexuels à deux, en fait. Il y a quelque chose qu'on a déjà parlé dans d'autres émissions, mais que je remets sur la table encore une fois, parce que... Bref. Voilà.
Bah voilà, peut-être que... Enfin, on espère qu'en tout cas, nos réactions auront éclairé l'auditrice sur ses questionnements et tout ça. Et puis peut-être on peut s'écouter une petite musique pour faire une petite pause, vous permettre d'appeler.
04 76 09 09 09, si vous voulez, il reste encore un petit quart d'heure d'antenne, n'hésitez pas.
Et donc nous allons écouter Regina Spektor, Après moi. C'est parti.
Oh.
Vous êtes toujours sur Calibre. Alors Calibre, on a un peu d'actualité à vous raconter.
Ouais.
Et des projets de loi. Et bon, et un peu des trucs plus généraux autour de ça.
Bah moi j'avais envie de réagir, je sais pas si vous avez entendu parler de ça parce que en ce moment on en parle un petit peu à la radio, mais en gros Roselyne Bachelot, elle nous a concocté un projet de loi sur la révision des lois de bioéthique, de la bioéthique. Donc il y a pas vraiment grand changement, les mères porteuses sont toujours interdites, les procréations artificielles sont toujours réservées aux couples hétérosexuel, j'ai bien dit au couple et hétérosexuel.
Et donc pas quand on est une mère célibataire.
Quand on est mère célibataire, on peut pas.
Enfin, quand on veut devenir mère célibataire.
Mais du coup, il y a quand même un changement, et je sais pas si c'est un bon changement. Et du coup, j'avais envie un peu d'en parler soir à l'antenne. Donc en fait, ça concerne l'anonymat des dons de gamètes, donc de spermatozoïdes et d'ovules. Donc jusqu'à présent, c'était quand on donnait son ovule ou enfin ses ovules ou ses spermatozoïdes, eh ben on était anonyme. Les personnes qui naissaient de ces gamètes-là, elles avaient aucune manière de, en tout cas en France, aucun accès à l'identité des donneurs ou des donneuses. Et ça, c'est en train de, enfin, ça peut changer. C'est-à-dire que pour le moment, c'est un projet de loi, donc on va voir ce qui se passe à l'Assemblée, etc., etc. Mais voilà. Et du coup, ce changement, il consiste en quoi? Eh ben, en fait, il y a deux cas. Si la personne qui est née d'un don de gamètes arrive à sa majorité et demande à avoir à connaître l'origine du sperme ou des ovocytes dont il est issu. Eh ben en fait, il y a soit le donneur qui a donné son accord et on lui fournit ses coordonnées et Jean-Kévin peut téléphoner à son géniteur. Allô Jean-Pierre, donc c'est toi qui a 18 ans à donner un spermatozoïde et qui du coup fait que je suis telle que je suis aujourd'hui. Soit le donneur n'a pas donné son accord. Et alors, on peut pas lui donner ses coordonnées, mais on lui donne quand même son profil, c'est-à-dire son origine géographique, son statut socio-professionnel, sa taille, des données médicales, enfin quand même un certain nombre de choses, quoi. Donc, et à savoir que selon le projet de loi, cet effet, enfin ce truc-là, il aurait un effet rétroactif. Donc, les personnes qui auraient donné leurs ovocytes il y a des années, on pourra donner leur profil aux personnes qui demanderaient. Et donc ça, c'est au nom du principe du droit à des personnes à connaître ses origines, enfin des personnes nées d'un don de gamètes.
Ça, je suis pas très sûr que vous puissiez l'amener jusqu'au bout légalement, parce que normalement les lois c'est jamais rétroactif. Mais
peut-être
que.
En tout cas, dans le projet de loi, ça y est. Je trouve que c'est quand même assez abusé, quoi. Bon, soit dit en passant, faut quand même se rappeler que les dons de gamètes, ça ne s'adresse toujours qu'à des couples hétéros mariés,
pour les recevoir,
mariés ou pacsés, c'est une petite nouveauté. Et qui justifie de 2 ans de vie commune et pour uniquement des raisons médicales. Alors que bon, pour quand même, si on pose la question vite fait, même s'il y a quand même effectivement pas mal de couples hétéros qui ont des problèmes qu'ils peuvent pas avoir pour des raisons de stérilité ou de maladie ou je sais pas quoi, besoin de ces dons de gamètes, c'est peut-être pas les personnes, enfin les plus nombreuses en fait dans les couples hétéros, dans les couples homo, excusez-moi du lapsus, c'est peut-être la question, elle se pose de façon peut-être plus cruciale, enfin plus souvent, quoi. Bref. En tout cas, moi, je sais pas vraiment trop ce que j'en pense. Enfin, je pense que j'en pense quand même quelque chose d'un peu négatif. Mais bon, c'est vrai que je me dis, à première vue, est-ce que c'est important qu'une personne née d'un don de gamètes, elle puisse avoir accès à ses origines biologiques. Et peut-être que oui, ça, moi, en l'occurrence, je suis pas dans cette situation-là, donc je peux pas vraiment parler pour elle. Mais en tout cas, effectivement, pour les donneurs, moi, je comprends le besoin de l'anonymat, parce que quand on donne ses gamètes, enfin, j'ai l'impression que l'objectif, c'est plutôt de fournir une espèce de pièce défaillante pour un projet qui ne leur appartient pas, quoi. Du coup.
Oui, c'est pas parce que tu vas, à un moment donné, donner ton sperme ou tes ovules, que tu as envie d'être papa ou maman ou te sentir responsable d'une personne, enfin d'un enfant, quoi.
Et du coup, tu utilises ce mot responsable et c'est assez fou parce que les gens qui sont pour l'évolution de la loi en ce sens-là, ils parlent de don responsable, de, enfin le mot responsable est vraiment hyper important pour eux, quoi. Et effectivement, enfin la responsabilité là-dedans.
Moi, je vois peut-être une bonne raison d'avoir un peu des informations sur les personnes qui donnent, c'est vraiment des trucs autour de maladies génétiques prévisibles. Peut-être, ça peut être pratique, enfin en tout cas pratique. J'ai l'impression, si j'ai 18 ans et que je sais que la personne qui a participé à l'une de mes gamètes, elle a tendance à avoir une maladie génétique qui fait que, a priori, j'ai une espérance de vie jusqu'à 40 ans. Peut-être ça m'intéresse comme information.
Moi, je suis allée un peu voir comment ça se passait, les dons de gamètes, qui c'est qui avait le droit de le faire. Alors, je voudrais quand même rappeler que les personnes qui peuvent donner leurs gamètes, c'est forcément des gens qui ont déjà eu des enfants. Va savoir pourquoi, j'en sais rien. Il y a des âges différents. Les femmes peuvent donner jusqu'à 37 ans et les hommes jusqu'à 45. Et par contre, il faut être en bonne santé. Alors, je sais pas ce que être en bonne santé recoupe, mais moi, je pense que si t'es porteur d'un gène de myopathie ou je ne sais quoi, je pense qu'en fait, ils font des tests sur tes gamètes et je sais pas comment dire, mais en fait, c'est que des personnes vraiment en bonne santé ou qui sont porteuses de peu de risques de maladies graves. Enfin, donc en fait, la raison médicale de pouvoir avoir accès aux données médicales, moi, je pense qu'elle tombe à l'eau assez facilement, en fait.
Mais alors, du coup, il reste quoi? Il reste ce truc de... De quoi? De savoir que, en fait, ma mère, elle était prof, alors que, du coup, c'est important que... Enfin, j'en sais rien, ça veut dire quoi? Que si je suis mauvais à l'école, j'ai qu'à me flageller parce que...
Moi, j'ai l'impression que ça entretient le mythe de la filiation biologique, ouais. En fait. Que c'est ça, c'est par le sang, par les gènes que ça se passe. Alors que je pense que je suis pas la seule à le penser, mais que la parentalité, la filiation, elle est avant tout sociale, quoi.
C'est d'avoir vécu avec les adultes, hein, à un moment donné, qui font qu'on a des parents, enfin qui font que c'est des parents, on pourrait dire ça comme ça.
Ouais, et moi, ce que j'ai lu un peu aussi, c'est que des fois, ça peut être aussi problématique parce que les personnes donc qui sont nées d'un don de gamètes, et moi, je pense que c'est bien qu'elles le sachent, qu'elles connaissent les conditions de leur création, de leur fabrication, de je sais pas quoi. Mais en même temps, d'imaginer, enfin de laisser la possibilité d'avoir un jour accès à des données, ça crée un peu un espèce de tiers fantasmé où du coup en fait mon vrai père c'est et je pense que enfin moi je suis pas forcément pour la norme parent un père une mère tatatatata, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais d'avoir dans son esprit des personnes qui seraient responsables de notre vie et qui ont rien à voir avec notre éducation, notre épanouissement et tout ça, je pense que je suis pas sûre que ce soit une bonne chose pour le développement psychologique d'un enfant, en fait, ou d'une personne. Après, je sais pas si je vais m'étaler sur des considérations psychologiques parce que j'ai pas vraiment les billes pour ça, mais bon, voilà, en tout cas, c'est un peu un truc qui est en train de se passer maintenant, puisque le projet de loi, il va être discuté dans l'automne à l'Assemblée, quoi. Donc, sachant que il faut savoir que le contexte européen est plutôt va plutôt vers la levée de l'anonymat, et que du coup c'est un peu aussi pour ça, pour se mettre à la mode, quoi, à la mode européenne, que il y a tous ces trucs, depuis peu longtemps en Grande-Bretagne c'est plus anonyme, voilà.
Mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment un truc il y a le truc là-dedans, c'est qu'avant c'était anonyme aussi, que en tant que parent on pouvait pas choisir dans une banque de sperme ou d'ovules, genre, ah oui, alors je voudrais des parents qui soient enseignant-chercheur à l'université. On ne pouvait pas faire ça en France.
En France, on ne peut pas. Ouais. Aux États-Unis, on peut. Par contre, en France, ce n'est pas forcément, c'est pas toi qui choisis, mais on te donne quand même des gamètes qui sont proches de toi, ce que, à quoi tu ressembles, à quoi ta famille ressemble, etc. Mais c'est les médecins qui choisissent dans, dans leur banque de données. Ce n'est pas toi qui fais ton
supermarché.
Et ça, c'est plus pour qu'il n'y ait pas vraiment de grandes différences du morphotype. Je ne suis même pas sûre que ça soit très pertinent. En tout cas, c'est une pratique qui se fait.
Moi, j'ai l'impression que c'est quand même... Enfin, ce n'est pas qu'un truc européen. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pression aussi qui vient en partie des États-Unis. Ou en tout cas, plein de gens ont des recherches plus ou moins financées autour de... Comment on pourrait dire ça? De trouver tout un tas de gènes plus ou moins fantasmés expliquant en fait voilà des comportements de personnes issues de l'éducation, des choses sociales et des trucs comme ça. Et en tout cas que là-dessus il y a quelque chose où à un moment donné c'est un
vrai danger ou...
Bah moi je considère que c'est flippant comme d'une part je considère que comme approche du monde ça me pose des questions parce que en gros ça dit ah c'était mes gènes alors j'étais déterminé à être comme ça ou en tout cas et enfin d'une part il y a ce truc de dire à une personne qu'elle pourra jamais changer quoi en gros qu'elle est comme ça et que ça bougera pas jamais. Je trouve que c'est un peu ouf et qu'il y a un truc aussi de dire aux adultes qu'entourent des personnes, des enfants, quoi, des personnes qui grandissent à un moment donné, que de toute façon elles peuvent rien faire parce que c'était dans les gènes. Et en plus, après, tout un tas de trucs, quoi, de choses où, voilà, on va enfermer les enfants à 3 ans parce qu'ils ont le gène de la délinquance. Enfin, il y a vraiment un truc, ça pousse à, ou plus concrètement vis-à-vis des sujets de calibre, il y aurait un gène de l'homosexualité.
Ouais, non, mais t'as raison, c'est clair. Hein, c'est à envisager dans un contexte plus large de quelle est la place de la génétique ou de la vision biologique, en tout cas. Oui. Ah oui, il est tard. Ouh là là. Bon. Non, mais on termine quand même. En tout cas, moi, ce que j'avais envie j'avais quand même aussi des questions à vous poser, vous, chers auditeurs, auditrices. Parce que, en fait, ça m'a questionné un peu, mais finalement, moi, je me suis jamais posé la question de savoir si. Je donnerais mes ovules, pourquoi je le ferais, etc. Est-ce que vous aimeriez les donner? Pourquoi est-ce que vous voudriez bien les donner? Parce que je pense que c'est un peu différent. Et est-ce que si aussi parmi les auditeurs, les auditrices, il y a des personnes qui sont nées de dons de gamètes, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous ressentez ce besoin de connaître l'identité de vos géniteurs biologiques? Je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool de discuter de tout ça avec des gens qui vivent cette expérience-là aussi, quoi. Parce que bon, on a beau vouloir dénoncer effectivement une certaine vision du monde et tout ça, quand on vit pas cette situation, je sais pas quoi.
Oui. Bah oui. Alors, quoi? Qu'est-ce qu'on on redonne l'adresse mail?
Ouais.
Alors, donc, si vous voulez nous envoyer des mails d'ici la semaine prochaine, c'est calibre, CAS-LIBRES, poivron comme le légume, .org. L'adresse du site, c'est sensiblement la même chose.
CAS-LIBRES.poivron.org. Voilà, bah ce soir au micro c'était Lunar et Mélanie, à la technique Modelora, et puis on était le 16 septembre et on vous retrouve sensiblement la même équipe.
Sensiblement la même prochaine à 20h sur Radio Kaléidoscope 97 FM à Grenoble.
Salut!
Ciao!
Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.